VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Ouagadougou, 18h à Bangui, bienvenue à notre journal. Tout d'abord, la convention du Parti républicain à Cleveland, à l'Ohio, ici aux États-Unis, qui commence en ce moment même. Après une campagne au cours de laquelle il a déjoué tous les pronostics, le milliardaire Donald Trump s'approche finalement de son couronnement comme candidat républicain à la présidence avec ce début de convention où sa femme Melania sera en vedette en ce premier jour. Cleveland s'attend à des milliers de manifestants pour ou contre le porte-étendard des Républicains. Et les autorités ont pris des mesures de sécurité exceptionnelles après les attentats d'Orlando en Floride, de Nice en France et la mort le 7 juillet de 5 policiers à Dallas et hier de 3 autres policiers à Baton Rouge en Louisiane, tués dimanche par un ancien marine ayant servi en Irak. En attendant le début de la grande messe à Cleveland, Idrissa Sedoudia, l'un de nos envoyés spéciaux nous fait découvrir ce qu'est une convention.
The convention is a democratic process at work.
Pour ce délégué de l'Iowa que j'ai rencontré ici à Cleveland, la convention, c'est le processus démocratique en action. Il explique qu'il a été élu directement par le parti de son État pour venir appuyer ici son candidat et lutter, je cite, « pour notre homme pendant l'automne » et, s'est-il repris, dans certains cas, une femme. Historiquement, les délégués n'étaient pas si puissants. Il a fallu l'établissement des primaires au 19e siècle et surtout au début du 20e siècle pour commencer à leur donner, à ces délégués, le pouvoir effectif de sélection des candidats de leur parti respectif à la présidence. À noter que la Constitution américaine ne dicte pas aux partis combien ils doivent être et encore moins comment ils doivent mener leurs affaires internes. Autrefois, c'était la machine du parti ou encore les barons du parti qui choisissaient les candidats à la présidence et à la vice-présidence et faisaient entériner leur choix par les délégués. L'expression que l'on utilisait en anglais pour ce processus était le « smoke-filled room », littéralement « la salle remplie de fumée ». Et je ne suis pas sûr qu'on parlait ici des cigares que l'on fumait, plutôt l'opacité du processus. Idrissa Sedoudia, à Cleveland.
Pour des détails sur les mesures de sécurité prises à Cleveland pour la convention, rejoignons un autre de nos envoyés spéciaux à Cleveland, Nicolas Pinault.
Oui, un seul mot d'ordre. La sécurité pour les près de 2500 délégués républicains qui vont assister à cette convention à partir de ce lundi. On attend aussi 15 000 journalistes accrédités du monde entier. Au total, ce sont 50 000 personnes qui sont attendues cette semaine sur Cleveland. La ville a reçu une aide fédérale de 50 millions de dollars pour payer les policiers supplémentaires et les équipements pour faire face aux nombreuses manifestations pro- et anti-Trump. Mais la grande inquiétude ici, c'est surtout le port d'armes qui est autorisé dans l'État de l'Ohio. Et donc, on observe déjà des personnes armées de fusils d'assaut déambulées dans le centre-ville de Cleveland, ce qui est tout à fait légal, mais beaucoup redoutent des affrontements. Près de la Quiklone Arena où aura lieu la convention, des barrières de 2,50 m ont été installées ainsi que des blocs de béton. Le centre-ville de Cleveland s'est transformé en véritable forteresse.
Nicolas Pinault à Cleveland, dans l'Ohio. Afrique maintenant, Côte d'Ivoire, affrontement ce lundi entre policiers et étudiants à l'université Oufouette-Boigny à Abidjan. Selon Sinclair Alla, secrétaire général de la FESI, la Fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, les étudiants en grève pour des revendications académiques ont été dispersés par la police alors qu'ils essayaient de tenir un meeting sur le campus. Bilan des échauffourées, se dit-il, une trentaine de blessés et une dizaine d'interpellations. La télévision nationale ivoirienne a fait état de son côté de bureaux saccagés et de véhicules incendiés par des étudiants en colère. Des informations confirmées par le ministère ivoirien de l'Intérieur qui souligne que la police a maintenant placé des agents sur le campus de façon permanente pour y rétablir l'ordre.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le 27e sommet des chefs d'État de l'Union africaine se termine aujourd'hui à Kigali, au Rwanda. Les participants ont décidé aujourd'hui d'ajourner à l'année prochaine l'élection du successeur de la Sud-Africaine Nkosazana Dlamini-Zuma à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Les raisons de cette décision avec le journaliste malien Moussa Boly qui est sur place à Kigali.
Aucun candidat n'a eu les deux tiers des votants pour prétendre succéder à Mme Zuma. Et le président de l'Union africaine, le président Idriss Déby Itno, en a tiré tous les enseignements en ajournant les élections qui sont probablement programmées pour 2017. En attendant, la commission actuelle va continuer à gérer les affaires.
Moussa Boly au micro de Kadiatou Traoré. Les trois candidats à la présidence de la commission de l'Union africaine étaient Agapito Mbamokoui de Guinée équatoriale, Pelonomi Vincent Moïtoj du Botswana et Spesosa Wandira Kazibwe de l'Ouganda. Autre sujet au programme du sommet de Kigali, la réintégration du Maroc au sein de l'Union africaine. Le roi Mohamed VI du Maroc a annoncé dimanche que le moment était arrivé pour que son pays retrouve sa place naturelle au sein de l'Union africaine. Le royaume chérifien avait quitté l'organisation en 1984 pour protester contre l'admission de la RASD, la République arabe sahraoui démocratique, proclamée par le Front Polisario, le mouvement indépendantiste du Sahara occidental. Le retour du Maroc dans l'organisation panafricaine doit être validé par un vote au sein de la Commission de l'Union africaine. À Sao Tomé et Principe, victoire dès le premier tour du candidat du parti au pouvoir à la présidence de la République aux élections de dimanche. Evaristo Carvalho, candidat soutenu par le parti du Premier ministre Patrice Trovoada, a obtenu 50,1% des voix contre 24,8% pour le président sortant Manuel Pinto da Costa, selon la Commission électorale nationale. Le tribunal constitutionnel doit encore valider ces résultats, a précisé la Commission. En RDC, deux opposants ont été condamnés à 15 ans de prison par un tribunal de Lubumbashi à la suite d'une bagarre pour le contrôle d'un parking de taxi-moto. Plus de détails avec Idriss Fall.
Olivier Kabbala et Eustache Mutombo ont été condamnés à 15 ans d'emprisonnement par le tribunal de grande instance de Lubumbashi. Maître Alexandre Ngoy, leur avocat commis d'office, a dénoncé un procès hautement politique et a trouvé suspect que ses clients étaient seuls au banc des accusés. Le samedi, une dispute avait opposé les deux hommes à leur ancien camarade de la majorité présidentielle sur la gestion d'un parking de taxi-moto dans le fief de l'opposant Gabriel Kiungu Wa Kumwanza, leader de l'UNAFEC. La dispute s'est transformée en bataille rangée, il y a eu des blessés légers. Ces deux militants de l'UNAFEC ont été donc arrêtés, jugés et condamnés pour tentative de meurtre selon le greffe du tribunal. L'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, est membre du G7, groupe de 7 partis politiques passés à l'opposition et qui soutient la candidature de Moïse Katumbi. L'opposition accuse M. Joseph Kabila de manœuvrer pour rester au pouvoir à la fin de son mandat en décembre.
Le sida reste la première cause de mortalité chez les jeunes âgés de 10 à 19 ans en Afrique. C'est ce qu'a déclaré l'UNICEF au premier jour de la conférence internationale sur le sida qui se tient à Durban en Afrique du Sud. Les séquelles du massacre du 14 juillet à Nice sur la Côte d'Azur. La France s'est figée ce lundi à midi pour une minute de silence en mémoire des 84 victimes du tueur de Nice. Mais le Premier ministre Manuel Valls, venu participer à l'hommage sur la promenade des Anglais, théâtre de la tragédie, a été hué à son arrivée et à son départ. Et des appels à la démission ont même retenti dans la foule. Un extrait de ces événements à Nice.
Ah, et puis c'est un peu la faute du gouvernement, il y avait pas assez
de
sécurité, hein, absolument. Hein.
Personne n'est content. Hein.
Personne n'est content, le peuple niçois n'est pas content du tout. Hein.
Bah, tout simplement parce qu'on a aujourd'hui, en tant que citoyen français, on se sent vraiment laissé seul. Quoi. Seul, le gouvernement, il nous promet des choses, il n'y a rien qui tient, et on ne s'en sortira pas. Quoi. Je pense que leur solution, c'est pas la bonne. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait jusqu'à aujourd'hui pour qu'on se sente en sécurité? Et pourtant, on attend quoi? Tous les 6 mois, on va pleurer nos morts. Que ce soit aujourd'hui à Nice, c'était à Paris il n'y a pas très longtemps, et ça continuera comme ça. Il faut que ce soit plus radical.
Le Premier ministre français Manuel Valls, hué à Nice, théâtre du massacre du 14 juillet qui a fait 84 morts. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.